الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو السادس من شهر شوال لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس هو 19 في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الفصول في سيرة الرسول رحم الله مؤلفه. Nous sommes le 2 août 2014 et nous allons inchallah aujourd'hui reprendre la série de cours dans l'étude de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en se basant comme d'habitude sur le livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. La dernière fois, on s'est arrêté juste à la fin de la bataille de Uhud. On a vu les causes pour lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a décrété cette bataille dans laquelle les kuffars se sont opposés aux croyants. Ils voulaient, à travers cette bataille, se venger de la défaite qui leur a été infligée par les croyants lors de la bataille de Badr. On a vu les lourdes pertes subies par les musulmans suite à leur désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu quelques détails de cette grande bataille dont Allah tabaraka wa ta'ala a parlé plusieurs fois dans la sourate Ali Imran. Ceci étant dit, l'imam Ibn Kathir rahimahullah va passer à un chapitre qui est en relation avec la bataille de Uhud, puisque c'est la suite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé le lendemain de la bataille de Uhud, dans une expédition militaire qui se nomme Hamra al-Asad. Et nous allons voir pourquoi elle se nomme ainsi. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit « Faslun, walamma asbaha يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض أي القيام في طلب العدو إرهابا لهم وهذه غزوة حمراء الأسد ويوم الأحد هذا هو اليوم الذي يلي يوم أحد فكان يوم السبت في شهر شوال من العام الثاني من الهجرة ففي يوم الغد حصلت هذه الغزوة قال وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا فلم يخرج إلا من شاهد أحدا سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فإنه كان أبوه استخلفه في بناته فقتل أبوه يوم أحد فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة فذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: le lendemain matin, vous prenez à la page 50, le lendemain matin de la bataille d'Uhud, un dimanche, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appela les musulmans à se lancer aux trousses de l'ennemi afin de le terroriser. Donc, avant d'aller plus loin dans la lecture de cette histoire, cette expédition à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé, puisqu'elle se nomme Ghazwa, et qui s'appelle Hamra al-Asad, est celle qui est venue tout de suite après la bataille de Uhud. La bataille de Uhud a eu lieu un samedi, et celle-ci s'est déroulée le lendemain. Cette expédition militaire s'est déroulée le lendemain de la bataille de Uhud. Elle s'appelle Hamra al-Asad par rapport à la montagne dans laquelle elle a eu lieu. Car les musulmans se sont dirigés le lendemain de la bataille de Uhud vers les kuffars de Quraysh, qui eux quittaient Médine pour rejoindre la Mecque et qui songeaient à revenir à Médine pour attaquer encore une fois les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant entendu cela, a ordonné à tous les compagnons qui ont participé avec lui à la bataille de Uhud la veille et qui étaient blessés, ils étaient remplis de blessures et les plaies de la plupart d'entre eux n'étaient pas encore guéries. Malgré cela, le prophète alayhi salatu wassalam leur a ordonné de se lever et de retourner à l'attaque de l'ennemi après avoir entendu que ce dernier voulait revenir combattre les musulmans. Et ceci nous est rapporté par Moussa ibn Uqba qui dit: قدم رجل من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أبي سفيان وأصحابه. Un homme venant de Mecca est arrivé au prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète l'a interrogé sur Abu Sufyan et ses compagnons. Abu Sufyan est le meneur des kuffars le jour de la bataille de Uhud, c'est-à-dire la veille. Le prophète عليه الصلاة والسلام cherche les informations concernant Abu Sufyan et ses comparses, ses compagnons. فقال نازلتهم أي نزلت عندهم فسمعتهم يتلاومون يقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم أي تقطعوهم فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم أي يجمعون الناس عليكم لقتالكم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وبهم أشد القرح بطلب العدو ليسمعوا بذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا ينطلق معي إلا من شهد القتال فهي تتمة لغزوة أحد. موسى بن عقبة dit qu'un homme est venu de la Mecque rencontrer le prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète l'a donc interrogé sur Abu Sufyan et ses compagnons. Cet homme lui a dit: j'ai fait halte près d'eux. Il les a rencontrés en chemin, il s'est arrêté à côté d'eux et je les ai entendus se blâmer mutuellement. L'un d'entre eux disait à l'autre: vous n'avez absolument rien fait. Vous avez réussi à attaquer le peuple, puis vous les avez laissés sans les découper, c'est-à-dire sans les achever. Et il reste chez eux des têtes, ici ce sont les koufars qui parlent entre eux sur les musulmans. Ils se blâment car pendant la bataille de Uhud, ils n'ont pas réussi à vaincre les musulmans. Ils n'ont pas réussi à éradiquer les musulmans, ou au moins à tuer leur tête. Donc ils se blâment entre eux. Ils disent: vous avez réussi à attaquer le peuple, mais en gros vous ne leur avez fait aucune nuisance. Vous n'avez rien réussi à leur faire. Et il reste de ce peuple des têtes qui vont rassembler les gens contre vous. Et c'est ainsi qu'ils se sont encouragés à réattaquer les musulmans. Abu Sufyan, qui était à cette époque le chef des koufars, a donc eu l'intention de réunir à nouveau les koufars et revenir attaquer les musulmans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu ça. Quand il a entendu ça, il a immédiatement ordonné à ses compagnons, ceux qui ont participé la veille au combat de Uhud et qui étaient blessés, ils étaient épuisés, énormément blessés, et il leur a ordonné de se lever et de retourner aux trousses de Abu Sufyan afin de leur montrer que les musulmans ne baisseront jamais les bras et ne seront jamais vaincus, car ils suivent les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils secourent leur prophète, son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains se sont interrogés sur la sagesse pour laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné particulièrement à ceux qui ont participé à Uhud de venir combattre à Hamra al-Asad. Et le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah ta'ala, a été questionné et j'ai oublié la réponse du Cheikh. Mais inshallah ta'ala, elle reviendra. Elle reviendra, et quand elle reviendra, je vous la citerai inshallah ta'ala. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à ceux qui ont participé à Uhud de venir avec lui combattre, ou au moins aller montrer aux kuffars que les musulmans sont encore debout, qu'ils ne sont pas vaincus, qu'ils n'ont peur de personne, qu'ils ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne sont pas affaiblis malgré les pertes qui leur ont été infligées le jour de la bataille de Uhud. Les musulmans ont perdu combien de personnes? Combien d'hommes ont-ils perdu? 70, na'am. Ils ont perdu 70 hommes. Donc, cette expédition, Hamra al-Asad, est donc une continuité ou une suite de la bataille de Uhud. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit, il ordonna que seul l'accompagnement, ceux qui avaient participé à la bataille de Uhud. Par conséquent, seuls prirent part à cette expédition, dite l'expédition de Hamra al-Asad, les compagnons qui étaient présents à Uhud, à l'exception de Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma. En effet, son père qui fut tué à Uhud l'avait chargé de la garde de ses filles. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte que Abdullah, le père de Jabir cité ici, avait 7 filles. Donc Jabir avait 7 sœurs, elles étaient jeunes, en bas âge. Et le jour de la bataille de Uhud, Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, voulait participer à ce combat. Mais son père lui avait donné l'ordre de rester à Médine afin de s'occuper, de prendre soin de ses 7 petites sœurs. Et donc il a obéi à son père, radiyallahu anhuma. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point est-ce qu'il a obéi à son père et combien il a pris soin de ses sœurs, lorsque Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma s'est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné. As-tu épousé une jeune femme vierge ou autre? Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma a dit non, ô messager d'Allah, je n'ai pas épousé une jeune femme vierge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il aurait dû épouser une jeune femme vierge, c'est-à-dire une nouvelle, une débutante, afin qu'il s'amuse avec elle et qu'elle s'amuse avec lui, comme le font les jeunes mariés. Pourquoi est-ce que Jabir radiallahu anhuma n'a pas choisi d'épouser une jeune femme? Et pourquoi est-ce qu'il a choisi d'épouser une femme qui en fait était une femme qui avait été divorcée, donc qui a connu le mariage? Il nous le raconte et il dit que lorsque son père, radiyallahu anhu, lui avait ordonné de prendre soin de ses filles, puis quand son père est mort, il n'a pas voulu se marier avec une femme qui serait jeune comme ses sœurs et qui donc n'aurait pas assez d'expérience pour prendre soin de ses sœurs, pour les éduquer, pour les réformer si elles commettent des erreurs et autres. C'est pour ça qu'il a choisi de prendre une femme qui a de l'expérience dans le mariage et qui a de l'expérience dans la vie de foyer, dans l'éducation, dans l'orientation. Et donc il a choisi de faire passer l'intérêt de ses sœurs au sien, radiyallahu anhu. Et cela fait partie des mérites de ce compagnon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas participé à Uhud. non pas parce qu'il n'avait pas envie, mais parce qu'il devait prendre soin de ses petites sœurs. Radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, lui et son père, qui sont tous deux des compagnons. Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, demanda donc au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et obtint l'autorisation de participer à l'expédition de Hamra al-Asad. Bien qu'affaiblis par leurs blessures, les musulmans répondirent à l'appel de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et atteignirent Hamra al-Asad. Hamra al-Asad, c'est le point où a eu lieu cette expédition. Et souvent, les expéditions militaires, dans la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam, portent le nom du lieu ou de l'endroit où elles ont eu lieu. Ici, elles ont eu lieu à cet endroit, Hamra al-Asad, et c'est le nom d'une montagne qui se situe à Médine, dans la direction de la Mecque, de Mecca, peu après le Miqat, c'est-à-dire l'endroit qui s'appelle Dhul Hulayfa et qui est le point de départ pour les pèlerins et ceux qui accomplissent la Umra. Et cette montagne est de couleur rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle Hamra. Hamra, c'est la rouge, le féminin du rouge. Hamra ou l'Asad. Et donc, comme on l'a vu, le but de cette expédition était de terroriser les koufars qui avaient pour ambition de revenir à Médine afin de réattaquer à nouveau les musulmans. Et le but a été réalisé, il a été atteint par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma a reçu la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam de participer à la bataille, à cette bataille Hamra al-Asad, alors qu'il ne faisait pas partie de ceux qui ont été présents pendant la bataille de Uhud. Bien qu'affaiblis par leurs blessures, les musulmans répondirent à l'appel de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam et atteignirent Hamra al-Asad, lieu situé à 8 miles. Et le mile, c'est à peu près 1,6 km de Médine. Tel est le sens des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est donc la traduction du verset 172 de Ali Imran. Ceux qui, quoique blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, une énorme récompense est réservée à ceux d'entre eux qui ont agi ainsi, qui ont agi en bien et ont été pieux. Et ici, méditez bien cette scène. Vous venez d'entendre l'histoire de la bataille de Uhud. Vous avez vu combien ont souffert les compagnons. Certains d'entre eux ont été blessés. Le sang coulait par plusieurs plaies. Ils souffraient, radiyallahu anhum. Certains parmi eux ont vu leurs proches mourir devant eux. Ils ont subi toutes sortes de châtiments, de supplices, de tourments, de douleurs. Et puis le lendemain, la première chose que l'un d'entre nous va vouloir faire, c'est se reposer. Il souhaiterait même aller dans un endroit le plus éloigné, ne voir plus personne, le temps de reprendre les forces. Peut-être qu'il souhaiterait aller se soigner, consulter le meilleur médecin, le meilleur docteur. Alors que eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur donne l'ordre de se lever et de retourner à ces gens-là avec qui ils ont combattu la veille. C'est-à-dire qu'ils risquent de subir les mêmes fatigues, les mêmes peines, les mêmes difficultés. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a fléchi. Aucun d'entre eux n'a dit au messager d'Allah, accorde-nous un répit, un délai, on est fatigué, on a souffert hier, personne. Ils ont tous obéi. Et bien par cette cause, Allah tabaraka wa ta'ala a vanté leur mérite dans ce verset en disant que ces gens-là, malgré leurs blessures, malgré leurs souffrances, ont secouru la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans aucun doute, on ne pourra jamais arriver au degré des compagnons radiyallahu anhum. On ne pourra jamais être comme eux, on ne pourra jamais leur ressembler, on ne pourra jamais atteindre un niveau proche du leur radiyallahu anhum. Mais le prophète alayhi salatu wa salam a dit un jour, « Al-mar'u ma'a man ahab » L'individu sera ressuscité avec celui qu'il aime. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour nous. Car, malgré le fait qu'on est dans l'incapacité totale de les rejoindre dans les actions, dans les comportements, dans le secours qu'ils ont apporté à l'islam, dans le suivi qu'ils avaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala nous a laissé une porte ouverte qui est celle de les aimer. Celle de les aimer. Et l'amour pour les compagnons radiyallahu anhum fait partie des actes les plus méritoires et de ceux qui sont le plus aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui rapprochent le plus de lui subhanahu wa ta'ala. Et ainsi vous voyez combien sont égarés les chiites, les shi'a, rafida, ceux qui insultent les compagnons et qui disent que la plupart d'entre eux ont apostasié, sont sortis de l'islam ou bien étaient des hypocrites, des mécréants, wal'iyadu billah. Donc, le musulman se doit d'aimer les compagnons. Il se doit de les aimer. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tasubbu ashabi » « N'insultez pas mes compagnons. »« Falaw anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban » Ma balagha mudda ahadihim wa la nasifa. Car si l'un d'entre vous dépenserait en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, et c'est une montagne qui est très grande, elle est étendue sur des centaines de mètres et élevée également sur des centaines de mètres. Si l'un d'entre vous dépenserait en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteindrait pas pour autant deux poignées de main d'aumône faites par un de mes compagnons. Pas même une seule main donnée en aumône par un de mes compagnons. Pourquoi ? À cause du mérite qu'ils ont, le fait qu'ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand certains des pieux prédécesseurs ont interrogé sur le mérite des compagnons et le mérite qu'il y a entre Muawiyah radiyallahu anhu et Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, qui n'était pas un compagnon, mais qui était un calife droit, pieux et très aimé des musulmans, un homme a dit, la poussière sur laquelle Muawiyah a marché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien meilleure que Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala. Et cela fait partie de la croyance des gens de la sunna. Et c'est pour ça que les ulama, les savants, dans leurs livres et dans leurs écrits qui traitent de la aqida, ont consacré un chapitre sur la foi que le musulman a vis-à-vis des compagnons et le devoir que le musulman a vis-à-vis des compagnons. Ainsi, toute personne qui dénigre les compagnons, cela est un signe distinctif que cette personne n'est pas des gens de la sunna, sans le moindre doute. Celui qui dénigre un compagnon ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des gens de la sunna. Donc voici quelques mérites de ces nobles compagnons qui ont répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: wa marra ma'bad ibn abi ma'bad al-khuza'i ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabih فأجازه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء مكان فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم ففت ذلك في أعضاد قريش وقد كانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: puis Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i passa devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Cet homme-là, Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i, est un homme qui au moment où il arrive n'est pas encore musulman. Il croise le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il écoute le message de l'islam. Il adhère à cette religion et il se convertit à l'islam. Pendant ce temps-là, Abu Sufyan et les Mekwa ne savent pas que cet homme vient d'embrasser l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'utiliser. Il lui dit, retourne chez Abu Sufyan, retourne chez lui et essaie de le dissuader de vouloir attaquer les musulmans. Et donc, Ma'abad radiallahu anhu suit la directive du prophète alayhi salatu wassalam. Il retourne voir Abu Sufyan, qui ne sait pas que Ma'abad est devenu musulman, et il lui dit, ça ne sert à rien de venir, de vouloir attaquer Mohammed et ses compagnons, ça ne sert à rien, et il essaie de lui faire peur. Et il lui dit, ils arrivent, ils sont avec ses compagnons, ils sont déterminés, et si on y va, ils vont nous battre, et ça ne sert à rien, etc., etc. Et alors Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il fait ? Il change d'avis. Et les kuffars changent d'avis. Et donc ça a été une victoire psychologique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les kuffars de Quraysh. Certains savants ont dit que parmi les preuves que les musulmans n'ont pas été vaincus pendant la bataille de Uhud comme on pourrait le penser, le fait que le lendemain de la bataille de Uhud, les kuffars de Quraysh ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour. Alors que quand il y a une bataille et que une partie est vaincue, la partie qui a vaincu la deuxième reste sur cet endroit quelques jours. Vous avez vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté chez Muslim, lorsqu'il réussit à vaincre les ennemis, il reste 3 jours dans l'endroit où il a vaincu l'ennemi. Pourquoi ? Pour reposer ses compagnons, pour reposer les montures. Et peut-être aussi pour montrer à l'ennemi, voici l'endroit où on vous a combattu, on est là et on y reste. Et pareil, les kuffars, s'ils arrivent à vaincre un ennemi, ils restent dans cet endroit-là. Vous vous souvenez qu'Abu Jahl, pendant la bataille de Badr, a dit, on va aller à cet endroit et on va y rester 3 jours. Eh bien, Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, a dit, ça c'est une preuve que les musulmans n'ont pas été vaincus, comme certains pourraient le dire. Car s'ils avaient été vaincus, les kuffars seraient restés. Mais là, ils ne sont pas restés. Le lendemain, ils sont partis. La preuve, c'est que le lendemain, le prophète, alayhi salatu wassalam, a été aux trousses des ennemis d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Quant à ceux qui ont été tués, les 70 compagnons qui ont été tués, ils ont été tués tout simplement parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu les honorer par le martyr. Et en fait, le martyr est meilleur pour eux. Car celui qui meurt dans cette situation-là de combat, de défense de l'islam, de défense du prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala, va avoir une énorme récompense, comme elle est citée dans les hadiths. Et d'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité les nombreux mérites ou les nombreuses leçons plutôt à tirer après la bataille de Uhud. Elles sont dans son livre Zadul Ma'ad et elles ont été résumées par l'imam Ibn Hajar rahimahullah. Il en a cité quelques-unes qu'on va citer. Premièrement, première leçon à tirer de la bataille de Uhud. Premièrement, ta'riful muslimin bi su'i 'aqibati al-ma'siyah. Allah Azza wa Jalla a voulu faire prendre connaissance aux musulmans de l'effet néfaste de la désobéissance. Pourquoi ? Car vous savez que dans la bataille de Uhud, les archers, qui avaient l'ordre de ne pas bouger pour défendre l'arrière des musulmans, ont désobéi. Et suite à cette désobéissance, on a subi des pertes aux musulmans. On a infligé, des pertes aux musulmans à un point où 70 personnes ont été tuées. Donc celui qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne suit pas la sunna, sans le moindre doute, un malheur va l'atteindre. et une baraka d'Allah Azza wa Jal va lui être enlevée. Deuxièmement, adatul rusul al-ibtila. ثم لهم العاقبة ولو انتصروا دائما لدخل فيهم من ليس منهم ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة. Deuxièmement, c'est que la coutume avec les messagers, c'est qu'ils sont éprouvés, mais ils auront toujours la fin heureuse, ils auront toujours à la fin la victoire. Il faut absolument que les prophètes soient éprouvés et ceux qui accompagnent les prophètes également soient éprouvés. Mais s'ils sont constants dans l'obéissance d'Allah et fermes dans ses ordres, la victoire leur sera accordée. Et dans le cas où Allah tabaraka wa ta'ala donne la victoire constamment et tout le temps aux ennemis d'Allah azza wa jal, les musulmans ne pourraient jamais distinguer qui sont les croyants des hypocrites. Car vous vous souvenez qu'après la bataille de Badr, l'hypocrisie a pris naissance dans la ville de Médine. Les kuffars qui ont compris que les musulmans sont devenus forts et qu'ils pouvaient maintenant attaquer les kuffars, ils ont eu peur. Ils se sont fait passer pour des musulmans. Ils cachaient en eux la mécréance. Comment est-ce que les musulmans vont voir que ces gens-là en vérité ne sont pas musulmans et qu'ils sont en vérité dangereux pour les musulmans? Avec ces épreuves, avec ces batailles. Vous avez vu à la bataille de Uhud au début combien étaient les musulmans? 1000. Mais en vérité, dans les rangs, il y avait 300 personnes hypocrites. Et donc, avec ces batailles-là, Allah subhanahu wa ta'ala a montré le vrai visage des hypocrites aux croyants afin qu'ils s'en préservent ou qu'ils se préservent de leur mal. À titre d'exemple, dans cette bataille, la bataille de Uhud. Donc, si Allah tabaraka wa ta'ala donnait la victoire tout le temps aux musulmans, les musulmans n'auraient peut-être jamais pu savoir qui sont les hypocrites, qui sont en vérité les mécréants, qui se font passer pour des musulmans, et donc ils n'auraient pas pu se préserver de leur mal. Et deuxièmement, si les musulmans avaient perdu toutes les batailles, alors le but pour lequel les prophètes ont été envoyés n'aurait pas été accompli, car ils n'ont été envoyés que pour parachever les autres, prendre le dessus sur les religions, et ils n'ont été envoyés que pour apporter la vérité. Donc c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne la victoire aux musulmans, mais il les éprouve également. Dans ces victoires-là, il leur inflige des pertes pour les raisons que vous venez d'entendre. Troisièmement, fi ta'khir an-nasr hadmun lin-nafs. Troisièmement, dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait reculer la victoire, il y a, si on peut le dire comme ça, une éducation pour l'âme de la personne. Car ça va l'éduquer à patienter, à endurer, à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, à faire preuve de plus de courage, de volonté, et ainsi de suite. Contrairement au cas où les batailles seraient simples, du premier coup, victoire. Comment est-ce qu'on va s'éduquer? Quatrièmement, asbab bulughi darajat al-aliya lil-mu'minin. Ces pertes qui sont infligées aux croyants durant ces batailles sont des causes pour que ces derniers atteignent des hauts degrés au paradis qu'ils n'auraient jamais pu atteindre avec leurs œuvres. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا أراد الله بعبد منزلة من الجنة فلم يبلغها بعمله. Quand Allah veut pour un de ses serviteurs un degré du paradis qu'il n'a pas réussi à atteindre par ses actes, par ses œuvres, قال لملائكته صبوا عليه البلاء صبا ثم صبره الله عليه. Il dit à ses anges: déversez sur lui toutes sortes d'épreuves et de difficultés, puis il lui donne la patience sur ses épreuves. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala veut élever son serviteur, mais ce dernier n'a pas assez d'action pour atteindre ce niveau, Allah azza wa jalla l'éprouve. Il rencontre des difficultés dans sa vie. qui vont lui permettre d'atteindre un niveau supérieur à ce qu'il a fait comme action. Et cela, en vérité, fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dernièrement, الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. Le degré de martyr est le degré le plus élevé des alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal a voulu faire don de ce degré à ses compagnons qui ont enduré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Kathir rahimahullah dit, les hommes de Quraysh qui avaient décidé de revenir à Médine furent tellement abattus par cette nouvelle qu'ils en furent dissuadés et poursuivirent leur route en direction de la Mecque. قال رحمه الله وظافر صلى الله عليه وسلم بمعاوية بن المغيرة ابن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان فلم يقتل فيها سواه. Il termine ce chapitre en disant: cependant, les musulmans capturèrent Muawiyah ibn al-Mughira ibn Abi al-As. Qui est cet homme? C'est celui qui a assassiné Hamza dans la bataille de Uhud et qui a déformé le corps de Hamza. C'est Muawiyah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné Hamza et il a déformé son corps. Il lui découpait le visage, les bras, le ventre, le dos, et il avait le corps complètement déformé. Ça, c'est pendant la bataille de Uhud le samedi. Le dimanche, les koufars de Quraysh retournent à la Mecque. Cet homme-là, Muawiyah ibn al-Mughira ibn al-As, est fatigué. Il est tellement fatigué qu'il s'allonge. Il s'allonge et alors il s'endort. Et dans la ghazwa de Hamra al-Asad, celle que nous sommes en train de lire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche tranquillement avec les compagnons. Qui est-ce qu'il trouve en train de dormir? Il trouve Muawiyah, celui qui a entaillé et déformé le corps de Muawiyah, de Hamza radiyallahu anhu. Il l'attrape avec ses compagnons, il l'attache et il l'exécute. Ils lui ont tranché la tête. Radiyallahu anhu sahabati ajma'in. Cependant, les musulmans capturèrent Muawiyah ibn al-Mughira ibn al-As, le père de Aïcha, qui est elle-même la mère de Abdul Malik ibn Marwan, qui lui-même sera plus tard un des gouverneurs des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna alors qu'il soit exécuté. Il fut donc la seule victime de cette expédition. Et c'est ainsi que ça s'arrête, cette expédition. Donc, Hamra al-Asad avait pour sagesse d'infliger la terreur aux kuffars, de leur montrer que les musulmans sont toujours debout et qu'ils ne se rabaisseront jamais. Ils seront toujours là pour élever l'étendard du tawhid. Et le résultat de cette expédition, la capture de Muawiyah ibn al-Mughira, qui a été exécuté par les compagnons, et c'est le seul qui a été exécuté par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Ibn Kathir continue: thumma ba'atha sallallahu alayhi wa sallam ba'da Uhudin بعث الرجيع وكان ذلك في شهر صفر من السنة الرابعة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه وقالوا يا رسول الله ابعث فينا من يعلمنا القرآن فبعث فيهم صلى الله عليه وسلم وذكروا أن فيهم إسلاما قالوا بيننا فينا مسلمون يريدون تعلم القرآن وهم خونة كذبة فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق وقال البخاري في صحيحه كانوا عشرة وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح إذن بعثوا عشرة وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم ولكن ذكر البخاري أنه أمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري وهو الراجح على قول السهيلي ومنهم خبيب بن عدي فذهبوا معهم فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأ غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا هذيل قبيلة فجاءوا فأحاطوا بهم فقاتلوا عامتهم وكان في شأنهم آيات رضي الله عن جميعهم واستأسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثن فذهبوا بهما فباعوهما بمكة وذلك بسبب ما كان قتلا من كفار قريش يوم بدر. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va passer à la mission de Ar-Raji', Ba'ath Ar-Raji'. Donc c'est une mission dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas participé. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Ar-Raji'? Parce qu'elle a eu lieu dans cet endroit. Et Ar-Raji', c'est un point d'eau qui se situe à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des compagnons à cet endroit et ils ont été trahis par des personnes. Lisons-le. À la suite de la bataille d'Uhud, plus exactement au mois de Safar de l'an 4 de l'Hégire, donc ce qui veut dire à peu près 4 ou 5 mois après la bataille de Hamra al-Assad. Hamra al-Assad, le lendemain de la bataille de Uhud, a eu lieu au mois de Shawwal, au milieu du mois de Shawwal, à peu près le 15 du mois de Shawwal. Shawwal, ensuite Dhul-Qi'da, ensuite Dhul-Hijjah, ensuite Muharram, ensuite là Safar. Apprenez à connaître les mois lunaires. Shawwal, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijjah, Muharram et Safar. Donc à peu près 4 mois et demi après la bataille de Uhud a eu lieu cette expédition ou cette mission qu'on appelle Ar-Raji' par rapport à l'endroit où elle a eu lieu, qui est un point d'eau qui se situe à la Mecque. Donc elle a eu lieu à Mecca. Ibn Kathir rahimahullah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya à leur demande des hommes à Al-Adal et Al-Qara. Ce sont des hommes qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui ont dit, ô messager d'Allah, il y a chez nous des musulmans qui veulent apprendre le Coran et qui veulent étudier la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend ça, il leur envoie des musulmans savants, des connaisseurs, des enseignants pour leur enseigner. Et quand ils arrivent là-bas, c'était en vérité une trahison. Ils les ont tous tués. Ils ont tué tous ces imams que le prophète a envoyés pour leur enseigner l'islam. Subhanallah. En effet, des hommes de ces tribus s'étaient présentés au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui annonçant qu'ils étaient attirés par l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya donc avec eux 6 de ses compagnons, selon Ibn Ishaq. Ibn Ishaq est un grand historien qui est spécialiste de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et son livre As-Sira, la biographie, est une référence de base de laquelle les savants de la Sira puisent. D'ailleurs Ibn Kathir rahimahullah ou 10 comme le rapporte Al-Bukhari dans son recueil authentique de hadith. Donc certains ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé 6 compagnons, d'autres ont dit 10. Et l'imam As-Suhayli, Abu al-Qasim As-Suhayli, c'est également un historien spécialisé dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, qui a écrit un livre qui s'appelle Ar-Rawd al-Unuf. Et dans son livre, il a choisi l'avis de l'imam al-Bukhari. Donc il a envoyé 10 personnes à la tête de ces hommes, parmi lesquels se trouvait Khubayb ibn Adi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plaça Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi, c'est-à-dire en tant que tête ou bien dirigeant de ces hommes-là. Car à chaque fois qu'il envoyait des hommes, il désignait un guide, il désignait un chef. Ils les suivirent donc. Mais une fois arrivé à Radi', ce point d'eau à la Mecque, nom d'un point d'eau de Hudhayl dans le Hijaz, Hudhayl c'est le nom d'une tribu. C'est d'ailleurs la tribu de Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali, radiyallahu anhu, dans le Hijaz. Le Hijaz, c'est la région de la Mecque et de Médine, et de ce qu'il y a entre ces deux régions. Donc quand ils sont arrivés à ce point d'eau, profitant de la nuit, ils allèrent traîtreusement demander de l'aide à la tribu de Hudhayl. Donc, ils ont été voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont dit au messager d'Allah, il y a parmi nous des musulmans et certains qui souhaitent découvrir l'islam et qui veulent étudier cette religion. Est-ce que tu peux nous envoyer des hommes ? Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur envoyait 10 hommes. Et à la tête desquels, Ibn Kathir dit qu'il a mis Marthad ibn Abi Marthad. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit que ce n'est pas lui qui a été mis en tant que guide, mais c'est plutôt Asim ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu. Donc le prophète les envoie sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils arrivent à ce point d'eau, ces traîtres attendent la tombée de la nuit. Ils profitent de la nuit pour aller demander de l'aide à la tribu de Hudhayl. Et les gens de cette tribu viennent leur donner de l'aide. Les musulmans furent donc rapidement encerclés et la plupart tués. Ils en ont tué au début 7. Ils en ont tué 7 et il en restait 3. Un a réussi à prendre la fuite. Deux d'entre eux furent capturés, qui étaient Khubayb ibn Adi et Zayd ibn Dathin. Khubayb ibn Adi a une histoire bien particulière, car suite à cette capture, il va subir des tortures inimaginables. Et malgré ça, il va faire preuve de la plus grande fermeté. Et il va être assassiné pour avoir secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son histoire, Khubayb radiyallahu anhu, à part entière, son histoire mérite une conférence. Son histoire mérite un dars entier. Radiyallahu anhu. Quoi qu'il en soit, ici il dit, deux d'entre eux furent capturés, Khubayb ibn Adi et Zayd ibn Dathinna, qui pour avoir tué des mécréants de Quraysh lors de la bataille de Badr, furent par la suite vendus comme esclaves à la Mecque. Ils ont réussi à attraper, à capturer ces deux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont vendus aux Mécois. Pourquoi? Parce que particulièrement ces deux hommes-là, Khubayb radiyallahu anhu et Zayd ibn Dathinna, ont assassiné, ont combattu, ont vaincu des kofars le jour de la bataille de Badr. Ils les ont donc vendus aux gens de leur famille afin qu'ils se vengent. Afin qu'ils se vengent et qu'ils les tuent. Et les Mécois les ont achetés. قال رحمه الله فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم. التنعيم هو مكان في مكة خارج حدود الحرم فأرادوا أن يقتلوا خبيبا خارج الحرم لأنهم كانوا يحترمون الحرم مع أن دم المسلم أشد حرمة من الحرام فهم انعكست الأمور في عقولهم فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما ثم قال والله لولا أن تقولوا أنما بي جزع لزدت أي لولا أن تقولوا بأنني خائف منكم لطولت الصلاة أكثر من هذا ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أيدي على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي أي جسم ممزع وإن كان بدني مقطوعا يبارك الله في أجزاء بدنه سبحان الله. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: le messager d'Allah, non, c'est pas ici. Les musulmans furent donc rapidement encerclés et la plupart tués. Deux d'entre eux furent capturés, Khubay ibn Adi et Zayd ibn Dathinna, qui, pour avoir tué des mécréants de Quraysh lors de la bataille de Badr, furent par la suite vendus comme esclaves à la Mecque. Khubayb, radiallahu anhu, demeura prisonnier un certain temps afin qu'il ne se décide à l'exécuter. Ils le conduisirent donc à At-Tan'im afin de le crucifier. Tan'im, c'est le nom d'un endroit qui se situe à la Mecque et qui est juste après les limites de tout l'endroit qui est sacré par Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est de cet endroit-là que les habitants de la Mecque accomplissent leur amra, car eux, c'est leur miqat pour eux. Ils sortent des limites sacrées de Mecca pour accomplir leur amra. Ils ont donc été à cet endroit-là. Pourquoi ? Qui est-ce qui a la réponse ? Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis du haram, des limites sacrées, pour exécuter Khubayb ibn Adi radiallahu anhu ? Hein ? Naam ? Pourquoi ? Je ne t'entends pas. Pour qu'il n'ait pas de récompense d'être mort sur la terre sacrée. Là, Issa. Là, cet ordre-là, il est dirigé vers les croyants. Ici, ce sont les kuffars. Naam, Salim. Pour respecter le haram, exactement. Parce que les kuffars de Quraysh, malgré leur mécréance, ils vénéraient cet endroit sacré qui est le haram, l'endroit sacré de la Mecque. Et subhanallah, ça nous montre combien leur raisonnement est déstabilisé. Parce que ils vont tuer un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour eux ce n'est pas grave. Ils vont assassiner un musulman, pour eux ce n'est pas grave. Par contre, de l'assassiner dans les limites sacrées, c'est grave. Alors que c'est bien plus grave de faire couler le sang d'un musulman que de commettre un interdit dans la Mecque. Car le caractère sacré de Mecca, du musulman, est bien plus grand que le caractère sacré de cet endroit. C'est pour ça que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour a regardé la Kaaba, il lui a dit « Ma a'azamak wa ma a'azama hurmatik » ou « hurmatak » Il lui a dit « Oh combien tu es immense, oh combien est grande ou est grand ton caractère sacré. Wala hurmatul muslimi a'azamu min hurmatik » Et malgré cela, le caractère sacré du musulman est bien plus grand encore que le tien. » Donc, « ala kulli hal », c'est pour ça qu'ils sont sortis à Tan'im. Ils sont sortis dans le but de le crucifier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Là, il demanda et obtint l'autorisation d'accomplir une prière de 2 rak'at. Il leur a dit, « Avant de m'exécuter, accordez-moi un répit que je puisse prier 2 unités de prière. » Il pria donc, puis leur dit, c'est-à-dire après cette prière, « Par Allah, n'eût été la crainte que vous pensiez que j'ai peur de la mort, j'aurais prolongé ma prière. » Donc il a fait sa prière, mais pour leur montrer qu'il ne craint pas ces gens-là et qu'il n'a pas peur d'eux, il a fait sa prière correctement, il est sorti de cette prière et il a dit que je n'ai pas allongé cette prière par peur que vous ne dites de moi que j'ai peur de vous. Subhanallah, même dans ce moment-là, même dans cet instant-là, il montre qu'il n'a pas peur du kufr et de ses partisans, qu'il n'a pas peur du shirk et des mushrikines, mais qu'il ne craint qu'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il est convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser de toute façon. Donc il n'est pas perdant. Même si en apparence il va se faire exécuter, car il va rejoindre les plus hauts degrés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il s'est mis à réciter des vers poétiques dont la traduction est « Tant que je meurs musulman, il m'importe peu la manière dont pour Allah je vais mourir. Et ceci pour l'amour d'Allah qui, s'il le veut, les membres d'un corps lacéré vont bénir. » C'est-à-dire qu'il leur a dit, il leur a fait comprendre à travers des vers poétiques, vous voulez me crucifier, vous voulez découper les membres de mon corps, peu importe comment je vais mourir, car c'est pour Allah que je vais tomber. Et ces membres que vous allez découper, peu importe qu'ils soient découpés ou non, car même s'ils sont découpés, ils seront bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, ils l'ont exécuté, mais juste avant, Ibn Kathir dit فَقَدْ قَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ أَيَسُرُّكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عِنْدَنَا تُضْرَبُ عُنُقُهُ وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنِّي فِي أَهْلِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِي سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est là qu'on voit qu'on n'a rien à voir avec les sahaba radiallahu anhum. Dans cette situation, il est attaché, il est crucifié. Après l'avoir crucifié à un arbre, ils chargèrent des hommes de le garder. Il manque un passage. Traduction. Et ce passage, c'est que Abu Sufyan lui a dit « Aimerais-tu que Mohammed soit avec nous et que son cou soit tranché pendant que toi, tu es apaisé avec les tiens ?» Donc, d'abord, sachez qu'il a souffert. Comme je vous ai dit, son histoire est longue. Et après toute cette souffrance, ils lui ont dit, « Maintenant, à ton avis, quelle est la meilleure chose ?» Tu préférerais que Mohammed soit ici, qu'on lui tranche la gorge, et toi, tu ne subis pas toutes ces souffrances, mais tu es chez toi tranquille avec les gens de ta famille. Il leur a dit avec la plus grande fermeté, par Allah, je ne me réjouirai jamais d'être tranquille avec les miens, avec mes proches chez moi, pendant que Mohammed se trouve dans l'endroit où il se trouve actuellement. Donc ici, on ne parle même pas du fait qu'il est avec eux, qu'il est emprisonné, alors qu'il se fait piquer, alors qu'il se fait toucher par un pic qui lui cause une nuisance. C'est-à-dire qu'il leur a dit, eux lui ont dit, tu aimerais que Mohammed soit à ta place et toi tranquille chez toi. On tranche la gorge à Mohammed et toi tu es tranquille chez toi. Il leur dit, non, je n'aimerais pas ça. Je n'aimerais même pas que Mohammed soit, pas avec vous, mais dans l'endroit où il est, et qu'il se fasse toucher par une aiguille, pendant que moi je suis chez moi tranquille, avec les miens. C'est-à-dire, pour rien au monde, je n'échangerais cette place avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma wakalu bihi man yahrisuhu, ou yahrusuhu, faja'a Amr ibn Umayyah, فاحتمله بخدعة ليلى فذهب به فدفنه وأما زيد بن دثنة رضي الله عنه فابتاعه أي اشتراه صفوان بن أمية فقتله بأبيه أي انتقاما لأبيه. Ibn Kathir dit, après l'avoir crucifié un arbre, ils chargèrent des hommes de le garder. Profitant de la nuit, Amr ibn أمية descendit son corps en cachette. Vous voyez, entre parenthèses, il est écrit un musulman. Pourquoi? Parce que Amr ibn Umayyah, au moment où il fait ça, c'est un kafir. Mais dans la suite, il va se convertir à l'islam. Et pourquoi il a mis entre parenthèses un musulman? Parce que quand tu vois l'histoire comme ça, si tu ne sais pas qu'il s'est converti par la suite à l'islam, peut-être que tu vas dire qu'Allah lui donne ce qu'il mérite, qu'Allah le punisse. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier la sirah. Car tu vas voir dans la sirah que beaucoup des ennemis de l'islam sont devenus non seulement croyants, mais plus encore, Et ils sont devenus les meilleurs croyants, les plus fervents défenseurs de l'islam et des musulmans. Donc, profitant de la nuit, Amr ibn Umayya descendit son corps en cachette et alla l'enterrer. Ensuite, il y a plusieurs versions. Il est dit que son corps était attaché à l'arbre où il a été crucifié. Et cet homme est venu, il a pris cet arbre avec lui, le tronc où il était accroché, et il l'a jeté dans un trou. Quant à Zayd ibn Dathin, Safwan ibn Umayya l'acheta et le tua pour venger la mort de son père. Son père qui a été assassiné pendant la bataille de Badr. Abu Sufyan avait dit à Zayd ibn Dathin, donc il n'y a pas de manque dans la traduction, mais cette partie l'ont fait passer après. Abu Sufyan avait dit à Zayd ibn Dathin, voudrais-tu que Muhammad soit entre nos mains, puis exécuté à ta place, et toi être avec ta famille? Il répondit par Allah, je ne voudrais pour rien au monde être avec ma famille si cela implique que Muhammad soit piqué par une épine à l'endroit où il se trouve. Et c'est ainsi que s'achève la lecture de l'histoire de la mission de Radi'. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, et on reprend le samedi prochain, comme d'habitude, inshallah ta'ala, après la prière du Asr. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك